RJB Info. Diana Dacosta.
Bonsoir. Si vous vous promenez auprès de la rive à Bienne, vous remarquerez plusieurs panneaux rouges munis d'un code QR. Ils font partie d'un tout nouveau parcours interactif qui mêle art et sport. L'objectif, promouvoir l'activité physique et la découverte artistique dans l'espace urbain. Chacune des six stèles est installée à proximité d'œuvres d'art, une manière de découvrir la richesse artistique de la ville de Bienne, comme nous le détaille le conseiller municipal Beat Feuillère.
Le fonctionnement est assez simple. Chaque lieu de spotting est marqué par une stèle avec un QR code. En scannant ce code avec un smartphone, on accède à des informations en ligne sur l'endroit et l'œuvre d'art proche. Et en même temps, il y a des petites vidéos avec des propositions de pratiquer des exercices physiques. Et puis clairement, là, naturellement, il n'y a pas d'ordre spécifique à suivre. Les participants, le public est libre de visiter les spots dans l'ordre qui leur convient.
Et donc le but est de pratiquer des exercices physiques, hein, toujours en lien avec l'œuvre d'art qui est liée à la stèle. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez un exemple à nous donner?
Oui, vous connaissez peut-être les fameux crayons auprès de Rive. Et ces crayons ont comme thème l'équilibre. Avec des exercices où vous essayez aussi d'équilibrer votre corps, vous avez un lien entre la culture, entre cette sculpture et l'expérience unique que vous avez en exerçant cet exercice.
Le parcours interactif Spotting Bien est à voir durant tout l'été auprès de la rive. Reconvilliers se prépare à accueillir un camp scout intercantonal. Du 8 au 10 septembre, plus de 350 jeunes du Jura bernois et de Bienne se réuniront à l'occasion du CAJU. Ce camp est organisé chaque année par l'un des groupes scouts membres de l'association du scoutisme jurassien. La candidature des scouts Pierre Pertuis a été acceptée en 2020. C'est donc le groupe tavanois qui aura l'honneur de mettre sur pied cet événement. Cet été, a-t-il annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Les scouts se retrouveront sur les hauteurs de Reconvilliers au Grand Prix. Il y a un siècle, le musée d'histoire prenait possession de la Villa Sondeau à La Chaux-de-Fonds. L'institution a ouvert ses portes au public le 28 mai 1923. La ville avait acheté quelques années plus tôt le bâtiment, mais aussi son jardin. L'idée d'un parc des musées en était à ses premiers pas. Pour célébrer le 100e anniversaire de l'arrivée des collections historiques dans la Villa Sondeau, l'équipe du musée prépare une exposition qui sera visible dès le 9 septembre prochain. Le conservateur Francesco Garuffo.
On vernira le 9 septembre une exposition qui retrace l'histoire de nos collections, leur arrivée dans ce bâtiment, en montrant comment le musée a évolué et comment, à chaque période, finalement, il a répondu aussi à une demande qui explique qu'il existe depuis 100 ans. On pourra voir beaucoup d'objets de nos collections, certains que le public ne connaît pas, d'autres qu'il a pu voir à d'autres occasions, et voilà, découvrir aussi les richesses que le musée conserve, parce que le musée d'histoire, c'est la Villa Sondeau que le public connaît, mais c'est aussi beaucoup d'objets, des dizaines de milliers d'objets qui sont conservés à travers le temps, depuis maintenant bientôt deux siècles. Et donc on a des collections très très riches qui sont constituées de plusieurs dizaines de milliers d'objets que le public évidemment ne verra pas dans son entier, mais pour avoir un certain nombre d'objets significatifs de nos collections.
Il y a une pièce, un objet pour mettre l'eau à la bouche aux futurs visiteurs.
Je ne vous en dirai pas beaucoup, mais il y a quand même un élément vraiment très intéressant. C'est un document papier, c'est une lettre d'Émile Zola, que vous pourrez découvrir, je ne vous en dis pas plus.
Des propos recueillis par Claire Viget, le musée d'histoire sera rejoint en 1926 par le musée des Beaux-Arts et en 1974 par le musée international d'horlogerie. Plus qu'un jour pour admirer les expositions présentées aux Journées photographiques de Bienne. Alors que l'événement s'achève demain, une exposition en particulier a retenu notre attention, c'est celle du photographe biennois Lucas Dubuis. Dans son objectif, l'histoire de Dominique Teria, agriculteur et croque-mort au Breleu. Avec pudeur et délicatesse, le photographe Lucas Dubuis s'est immergé dans le quotidien du Teignon, entre travail à la ferme et toilette mortuaire. La série d'images s'appelle « De la terre à la terre » et fait l'objet d'un livre, un reportage tout en contraste où les franches montagnes servent de décor. Lucas Dubuis.
Peut-être ce qui, pour quelqu'un qui regarde ces photos, amène de la signification, c'est qu'elles se déroulent dans un endroit qui nous est familier. Et pourtant, avec une dimension justement qui touche à la mort, qui est une dimension qu'on l'on veut souvent cacher ou éloigner le plus possible de nous ou essayer d'occulter pour repousser ses craintes le plus loin possible. Et là, j'ai mélanger justement ces vues, ces visions des franches montagnes, ces visions du monde paysan que l'on connaît. Hein, on passe tous en voiture à côté d'une ferme un jour ou l'autre, ou bien on va se promener à la campagne, avec justement ces images beaucoup plus inattendues et peut-être plus déstabilisantes qui évoquent la mort, soit peut-être de façon assez claire, puisque dans la série, on se rend compte qu'on a affaire à une photo d'un corps inerte, ou alors avec des scènes plus symboliques qui représentent plutôt l'inconnu et l'inconnu qui nous attend tous, qui est symbolisé par exemple par des sapins perdus dans le brouillard ou par une fenêtre un peu opaque qui ne nous permet pas de distinguer le paysage de l'au-delà.
Un entretien complet avec le photographe Lucas Dubuis est à retrouver sur notre site internet rjb.ch. Entre 500 et 1000 mètres cubes de roches se sont effondrés hier en fin de journée au lieu-dit Bergli à Glaris. Ça s'est passé dans une zone de promenade en forêt. Les plus gros blocs à s'être détachés étaient à peu près de la taille d'une voiture. Personne n'a été blessé, mais la zone est toujours considérée comme instable, selon une annonce de la commune. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Berne à l'appel de la grève du climat. Elles ont demandé d'accepter la loi sur le climat soumise en votation le 18 juin prochain. Néanmoins, le mouvement écologiste juge le projet insuffisant. Il regrette notamment que l'objectif zéro émission nette fixé pour 2050 arrive trop tard. Dans l'actualité internationale de ce samedi 27 mai, le président serbe Aleksandar Vučić se retire de la direction de son parti. Il a assuré qu'il n'allait pas quitter la formation conservatrice SNS, mais il a annoncé la création fin juin du mouvement pour le peuple et pour l'État. L'homme de 53 ans qui dirige le pays des Balkans depuis près d'une décennie est souvent critiqué par ses détracteurs pour sa façon autocratique de travailler et sa mainmise sur des médias et des institutions publiques. Sport. Une défaite pour mettre un point final à une saison difficile pour le FC Bienne. Les Célandais se sont inclinés 3-1 contre les moins de 21 ans du FC Bâle cet après-midi à la Tissot Arena lors de la dernière journée de Promotion League. Les Rennais de milieu de classement menaient déjà de deux longueurs à la 13e. Charlie Keita a réduit l'écart pour l'équipe locale avant le T, mais le FCB a encaissé un dernier but dans le temps additionnel. Assurés de leur maintien, les joueurs de Samir Chabedra terminent l'exercice à l'avant-dernière place avec 26 points et en 34 matchs. En deuxième ligue interrégionale, le FC Tavannes-Tramelan a fait match nul de partout sur la pelouse de Matran. L'équipe du Jura bernois a mené par deux fois au score face au dernier du classement sans parvenir à conserver son avantage. Septième du classement, elle accuse désormais 4 points de retard sur le top 5. De son côté, le FC Erguel a partagé l'enjeu sur un score nul et vierge à domicile face à Muri-Gumlingen, un adversaire direct au classement. C'est le sixième match de suite sans victoire pour les joueurs d'Alain Villard qui reste provisoirement 11e avec 3 longueurs d'avance sur la barre avant les autres matchs du jour. Le Canada disputera sa 4e finale consécutive dans un championnat du monde de hockey sur glace. L'équipe à la feuille d'érable a mis fin cet après-midi au rêve de titre d'une surprenante et vaillante équipe de Lettonie. Menée à 2 reprises à la marque et encore derrière au tableau d'affichage à l'entame de la 3e période, les Canadiens ont su trouver les ressources nécessaires pour finalement l'emporter 4-2 en demi-finale à Tampere en Finlande. Le gardien canadien Samuel Montembeau.
Évidemment, tout le monde est très content. C'était vraiment un bon match. Les Lettonies ont connu tout un tournoi, se sont bien battus. Mais les jeunes ont vraiment steppé up en troisième période. On a fait 2 très beaux buts, puis vraiment content de la victoire.
Comment est-ce que vous analysez ce match face à la Lettonie qui vous a poussé vraiment dans vos derniers retranchements, j'ai envie de dire?
Oui, absolument. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui travaille très fort. Ils bloquent beaucoup de lancers. Puis leurs partisans sont incroyables aussi. Ils font beaucoup de bruit. Puis c'est vraiment un bon match. Leur gardien a très bien joué de leur côté aussi. Donc c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée tout au long du tournoi. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ils ont ensuite remporté 6 de suite. Donc on savait que ça allait être un match beaucoup plus difficile qu'au premier. Ils se sont bien battus, puis on est content du résultat.
Les Lettons se sont améliorés, mais le Canada aussi, on a l'impression qu'il est monté en puissance dans ce tournoi, vraiment.
Oui, absolument. Je pense aussi qu'est-ce qu'on fait très bien, c'est parce qu'on a marqué le 3e but en 3e période. Mais on a fait la même chose lors du dernier match. On manage vraiment bien la rondelle, on ne prend pas trop de risques, puis on joue bien défensivement.
Samuel Montembeau répondait à notre envoyé spécial à Tampere, Christophe Morellon. Le Canada disputera donc la finale du championnat du monde demain soir face au vainqueur du duel entre les États-Unis et l'Allemagne qui a lieu en ce moment. Et c'est 2-2 après le premier tiers. La Lettonie jouera elle pour le bronze face au perdant demain après-midi. Un mot de tennis, Nicolas Yarris offre l'édition 2023 du Geneva Open. Le Chilien s'est imposé 7-6-6-1 face au Bulgare Grigor Dimitrov cet après-midi en finale sur la terre battue du Parc des Eaux Vives. Il remporte le troisième titre de sa carrière sur le circuit ATP. Il grimpera ainsi aux alentours de la 35e place mondiale, soit le meilleur classement de sa carrière. En Formule 1, Max Verstappen a signé la pole position en vue du Grand Prix de Monaco qui se tient demain. Le Néerlandais a devancé aujourd'hui le vétéran espagnol Fernando Alonso sur le circuit urbain de la Principauté. Le Bayern de Munich a décroché in extremis le 33e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 11e consécutif. Les footballeurs bavarois ont profité de l'inattendu faux pas de Borussia Dortmund. Leader avec 2 points d'avance, le BVB a manqué le coche devant son public en concédant le nul 2-2 contre Mayence. Le Bayern en a pleinement profité grâce à son succès 2-1 à Cologne qui lui permet de devancer son rival à la différence de but. On fait un tour du côté du ciel avant de nous quitter. Le dimanche de Pentecôte nous réserve une météo bien ensoleillée comme aujourd'hui, avec une ambiance agréable et une légère bise. Des cumulus inoffensifs pourraient se développer au-dessus du Jura en cours de journée. On n'attend en principe pas d'averses sur la région. Côté Mercure, il pourra faire jusqu'à 21 degrés à Tavannes, Saint-Imier et Tramelan, 23 à Moutier, 24 degrés à Bienne et même 25 à La Neuville. Le soleil devrait ensuite nous suivre encore jusqu'à mardi selon les prévisions de Météo News. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée.